86 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. En ce mardi 28 novembre 2023, nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique intitulé « Israël doit être jugé pour avoir commis 4 crimes internationaux fondamentaux à Gaza ». Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, déclaration du leader de la révolution islamique d'Iran. Les progrès de la marine iranienne depuis la révolution de 1979 sont incroyables et remarquables. Un consensus international existe sur la nécessité d'un cessez-le-feu durable à Gaza, a déclaré Hossein Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne. Et puis les missiles et les programmes spatiaux iraniens sont pleinement conformes au droit international, insiste l'envoyé de l'Iran de l'ONU. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les progrès de la marine iranienne depuis la révolution de 1979 sont incroyables et remarquables. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a salué les réalisations effectuées par la marine de la République islamique d'Iran après la révolution islamique de 1979 comme étant remarquables et incroyables. L'honorable Ayatollah Khamenei a rencontré ce mardi 28 novembre un groupe de commandants et de responsables de la marine de la République islamique d'Iran. La rencontre a eu lieu à l'occasion de la journée de la marine iranienne. Dans les premières années qui ont suivi la révolution, la présence de la marine de la République islamique d'Iran au-delà des eaux territoriales était inimaginable. Mais aujourd'hui, la marine effectue un voyage à 360 degrés autour du monde avec puissance et force et revient au pays avec fierté, se félicite le leader. Un porte-avions américain a suivi les ordres du corps des gardiens de la révolution islamique pour naviguer dans le golfe Persique. Selon le commandant de la marine du CGRI, un porte-avions américain a été obligé de suivre les ordres de la marine iranienne et de répondre en persan en vue de pouvoir naviguer dans le golfe Persique. Soulignons un autre exemple de l'autorité militaire iranienne dans le golfe Persique, le général Tank Siri, commandant dans la marine du CGRI, a déclaré « Hier, un porte-avions américain est entré dans le golfe Persique après avoir répondu en persan à toutes les questions de nos forces. Nos drones étaient au-dessus d'eux et nous avons averti que leur hélicoptère devait se positionner sur le porte-avions. Ils ont souligné qu'ils restent au-dessus de leur propre porte-avions et suivent les ordres. Nous avons des vidéos et des photos de tous leurs mouvements. Selon ce haut gradé iranien, les Américains savent que nous sommes le maître du détroit d'Ormuz et donc ils sont obligés de suivre nos mesures en vue de pouvoir être présents dans le golfe Persique. 33 prisonniers palestiniens libérés en échange de 11 captifs libérés par le Hamas. Le régime israélien a libéré un autre groupe de prisonniers palestiniens après que le mouvement de résistance Hamas a libéré près d'une douzaine de captifs dans le cadre de la quatrième phase d'un accord d'échange entre les deux parties. Les autorités pénitentiaires israéliennes ont libéré 33 prisonniers palestiniens tôt mardi 28 novembre, quelques heures après que le mouvement Hamas a livré à la Croix-Rouge 11 ressortissants étrangers retenus en captivité dans la bande de Gaza. Les captifs libérés avaient la double nationalité française, allemande et argentine. Selon les médias palestiniens, 24 prisonniers palestiniens libérés de la prison militaire de Fer ont été transportés par un bus de la Croix-Rouge vers la ville de Ramallah en Cisjordanie occupée. 9 autres prisonniers libérés du centre de détention d'Al-Mouskibia dans la ville occupée de Rots ont été accueillis par leur famille. Plus tôt lundi, les forces israéliennes ont perquisitionné les domiciles des familles d'un certain nombre de détenus de Rots avant leur libération, les mettant en garde contre toute célébration ou rassemblement. À Ramallah, des centaines de personnes ont accueilli les prisonniers libérés, scandant des slogans et les félicitant pour leur liberté. Ils ont également appelé à la libération du reste des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Les forces du régime ont tiré à balles réelles et lancé des grenades lacrymogènes sur des civils rassemblés près de la prison d'Ofer, notamment dans la ville de Beit Union, en Cisjordanie occupée, tuant par balle un jeune Palestinien. Des sources palestiniennes ont rapporté que Yassine Abdullah Al-Asmar, 26 ans, est mort après avoir été touché à la poitrine par des tirs réels des forces israéliennes lors d'affrontements qui ont éclaté à Beit Union, tandis qu'un autre jeune homme a reçu une balle dans le pied. Plus tôt lundi, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, avait annoncé dans un message sur X que 33 Palestiniens seraient libérés en échange de 11 captifs de Gaza. Il a ajouté « Parmi les personnes libérées des prisons israéliennes figurent 30 mineurs palestiniens et 3 femmes, tandis que parmi les personnes libérées de Gaza figurent 3 citoyens français, 2 citoyens allemands et 6 citoyens argentins ». La quatrième phase de l'échange de prisonniers a eu lieu quelques heures après l'annonce de la prolongation de 2 jours de la trêve de 4 jours entre Israël et le Hamas à Gaza. Avant lundi, 39 captifs israéliens et 117 prisonniers palestiniens avaient été libérés en 3 phases dans le cadre de l'accord d'échange. En outre, le Hamas a également libéré 19 ressortissants étrangers. Un consensus international existe sur la nécessité d'un cessez-le-feu durable à Gaza. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, affirme qu'il existe un consensus international sur la nécessité d'établir un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza après environ 7 semaines de guerre génocidaire menée par le régime israélien. Le chef de la diplomatie iranienne a fait ses remarques lundi lors d'un appel téléphonique avec son homologue suisse, Ignacio Cassis. Amir Abdollahian a évoqué la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en Palestine, prévue mercredi. Il existe un consensus international sur la priorité de cesser durablement les attaques d'Israël contre Gaza et la Cisjordanie occupée, de lever le blocus de Gaza, d'envoyer de l'aide humanitaire, y compris des médicaments, de la nourriture et du carburant, et d'empêcher l'expulsion forcée des Palestiniens depuis Gaza et la Cisjordanie, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Le responsable suisse a pour sa part exprimé son inquiétude quant à la situation dans les territoires palestiniens, tout en soulignant la nécessité de libérer les prisonniers, de soutenir les civils, d'envoyer de l'aide humanitaire aux zones touchées et d'empêcher une nouvelle escalade de la guerre à Gaza. Il a fait état des consultations menées par son pays pour protéger la vie des civils, ainsi que les efforts déployés pour prévenir un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Cassis a exprimé l'espoir que la trêve en cours à Gaza soit prolongée pour une période plus longue. Israël a commencé sa guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre à la suite d'une opération surprise lancée par les groupes de résistance palestiniens contre le régime occupant de Rots. Une trêve de 4 jours est entrée en vigueur vendredi 24 novembre dans la bande de Gaza et elle a été prolongée de 2 jours après son expiration lundi 27 novembre 2023. Envoyés de l'ONU, les missiles et les programmes spatiaux iraniens sont pleinement conformes au droit international. L'Iran réaffirme que ces programmes de missiles et spatiaux sont conformes aux résolutions des Nations Unies. L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a déclaré dans une lettre adressée lundi 27 novembre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et au président tournant du Conseil de sécurité que les programmes de missiles et spatiaux du pays étaient pleinement conformes au droit légitime de l'Iran en vertu du droit international. Sa lettre fait suite à une lettre antérieure de l'envoyé israélien à l'organisme mondial prétendant que le lancement par l'Iran du satellite Nour 3 à l'aide du lanceur spatial Qased messager SLV le 27 septembre 2023 constituait une violation des règles de la résolution 2231 du Conseil de sécurité. Les allégations contenues dans la lettre sont totalement inféodées dans la mesure où l'Iran n'a jamais entrepris d'activités incompatibles avec la résolution 2231 du Conseil de sécurité, a déclaré l'ambassadeur iranien. Il a venu ajouter, l'Iran a clairement indiqué à maintes reprises que toutes les activités liées à ses programmes de missiles et spatiaux étaient pleinement conformes à ses droits légitimes issus du droit international et que ces programmes de missiles et spatiaux ne sortaient pas du cadre fixé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité et ses annexes. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Israël doit être jugé pour avoir commis 4 crimes internationaux fondamentaux à Gaza. Un vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le régime israélien devrait être traduit en justice pour les 4 crimes internationaux fondamentaux qu'il a commis contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza lors de sa dernière opération militaire à grande échelle. Reza Najafi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, chargé des affaires juridiques et internationales, a fait ses remarques lundi lors de la 28e session de la conférence des États parties à la Convention sur les armes chimiques à La Haye, aux Pays-Bas. Au cours des 8 dernières semaines, le régime israélien a commis les 4 crimes internationaux fondamentaux, à savoir le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression de manière répétée et simultanée, a-t-il déclaré. Cela implique la responsabilité internationale du régime israélien et de ses partisans, ainsi que la responsabilité pénale individuelle de tous ceux qui ont ordonné et commis de tels crimes ou facilité, aidé et encouragé leur commission, notamment en fournissant les moyens requis, a-t-il ajouté. Le haut diplomate iranien a souligné que tous les responsables des crimes contre les habitants de Gaza devront répondre de leurs actes et être traduits en justice. Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza, le 7 octobre, plus de 15 000 civils palestiniens ont été tués, rien qu'à Gaza, tandis que plus de 6 000 sont toujours portés disparus et plus de 36 000 sont blessés, a déclaré le diplomate, ajoutant que plus de 70% des personnes tuées, portées disparues ou blessées sont des femmes et des enfants. Il a réitéré qu'en plus de ces chiffres, les rapports horribles et les images déchirantes de l'invasion barbare d'Israël ont révélé une fois de plus, de manière claire et indéniable, le caractère très meurtrier du régime qui possède des armes de destruction massive ADM, y compris des armes chimiques, dans ses stocks. Najafi a souligné que les crimes d'Israël ainsi que l'appel d'un ministre du régime à larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza prouvaient une fois de plus le grave danger des armes chimiques israéliennes pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Il a souligné l'importance de tout mettre en œuvre pour une universalisation rapide de la Convention sur les armes chimiques et prohibée, notamment en obligeant le régime israélien à y adhérer sans aucune condition préalable ni délai supplémentaire.
Bonjour à tous. Le sujet du jour étant le discours effectué par le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Saïd, à Saïd Ali Khamenei, qui a eu lieu la semaine dernière. Il s'est exprimé devant des sportifs iraniens et devant le fait que maintenant le monde entier pouvait comprendre pourquoi les sportifs iraniens se refusaient de s'opposer à toute personne venant de l'entité sioniste. Le sujet de notre débat est également les conséquences de la guerre à Gaza contre l'entité sioniste, c'est-à-dire les conséquences internationales, ainsi que les conséquences aux alentours de cette entité et le fait que cette fois, les conséquences se font en dehors même du site militaire. Je vous propose tout d'abord de voir le reportage que nous avons préparé à cet effet. Par la suite, nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite, le reportage.
Des centaines de manifestants se sont rassemblés vendredi devant l'ambassade américaine à Colombo pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens condamnant le soutien américain, la livraison d'armes à Israël pendant la guerre en cours. Le rassemblement anti-israélien a eu lieu près de l'ambassade américaine à Colombo avec des manifestants brandissant des pancartes et des drapeaux palestiniens ainsi que des effigies de cadavres sur lesquelles on pouvait lire « Génocide » et des pancartes disant « Nous sommes aux côtés de la Palestine ». Palestine libre. Les manifestants ont exprimé leur soutien à la Palestine et scandent des slogans tels que « Stop au génocide » et « Du fleuve à la mer ». La Palestine sera libre. D'autres brandissaient également des pancartes représentant des images du président américain Joe Biden et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, les qualifiant de meurtriers et de criminels. La manifestation organisée par le mouvement de lutte populaire s'est déroulée dans une atmosphère pacifique et a progressivement dégénéré en affrontement avec la police. 5 manifestants ont été arrêtés par la police et un policier a été blessé lors des affrontements.
Nous revoilà donc dans les studios. Tout de suite, nous allons accueillir nos deux invités. Nous commençons par Madame Aïssa Midani. Alors, une analyste politique que vous connaissez. Elle nous a permis de connaître ce qui se passe en Syrie, notamment lors des attaques terroristes de Daesh. Bonjour Madame Midani, ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe, à votre invitée Madame Oubala.
Alors, notre deuxième invité, vous l'aurez compris, c'est Rada Obola, alors professeur à l'Université de Beyrouth, également analyste politique. Bonjour, professeur Obola, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Oui, et bonjour à vous, ainsi qu'à votre invité, Madame Inani, et aussi à votre équipe. Et je vous remercie de m'avoir encore une fois invité sur votre plateau.
Alors, professeur, nous allons commencer avec vous, si vous le voulez bien, tout de suite sur le fait que nous avons toujours eu ces dernières 10 années, 20 années, sur le fait que le lobby sioniste est extrêmement puissant, que tout était bloqué, que ce soit les médias, que ce soit la partie cinéma ou encore tout simplement par le biais des marques de consommation. Et nous avons vu une réaction internationale très importante, que ce soit ici au Moyen-Orient, mais également que ce soit sur le continent africain, que ce soit sur le continent d'Amérique du Sud ou asiatique. Nous avons pu voir une réaction internationale contre ce lobby, dans certains pays extrêmement efficace, puisqu'on parle de fermeture de magasins. On parle également de baisse d'accords économiques avec l'entité sioniste. On parle également de la monnaie sioniste en train de baisser, voire de s'effondrer. Vous êtes à Beyrouth, je le rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes donc très voisin de ce qui se passe du côté de l'antisioniste. Est-ce que vous confirmez ce que beaucoup d'analystes sont en train d'affirmer?
Confirmer quoi, ce que vous venez de dire ou ce que disent les analystes de ce qui risque de se passer? Écoutez, je vais essayer d'aller à contre-vent de ce que vous avez dit. Oui, il y a des campagnes de boycott. Et ces campagnes de boycott des produits israéliens avaient commencé bien avant le déluge à l'Aqsa. Seulement, ce qui s'est passé, ce qu'on peut parler entre guillemets de victoire au sens sociologique, en termes sociologiques, sociologie politique, c'est que avec toute la campagne de normalisation des relations entre l'entité sioniste et certains pays arabes, la cause palestinienne était en train de mourir vivante. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause des crimes de l'entité sioniste, qui sont des crimes contre l'humanité, et ces crimes ont pu être dévoilés à toute l'opinion publique internationale, parce que, et c'est là l'ambivalence, parce qu'il y avait un feu vert de la part des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils se sont permis, que les Israéliens se sont permis de faire ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils avaient le feu vert. Je ne sais pas s'ils ont pris en considération l'opinion publique internationale au moment où ils faisaient leurs crimes. Mais je suis sûre qu'ils étaient plus ou moins surpris par cette réaction, surtout qu'ils pensaient, comme vous l'avez dit, qu'ils jouissent de plusieurs lobbies sionistes à travers le monde. Or, ces lobbies sionistes, c'est vrai qu'ils sont forts, au sens qu'au début de cette bataille de l'Hijr al-Aqsa, ils étaient actifs au niveau diplomatique, ils ont poussé, pour ne pas dire forcé, tous les responsables, les hauts responsables, les représentants des États occidentaux de rendre visite à l'entité sioniste pour affirmer leur soutien, sans compter au niveau, pas seulement soutien politique, soutien militaire. Mais cela ne suffit pas pour avoir une couverture médiatique. Ce qui s'est passé, c'est que là, je vais parler d'un cinquième pouvoir. Vous savez que quand on parle de médias, on a toujours parlé des médias comme étant le quatrième pouvoir. Or, je pense qu'il y a un cinquième pouvoir qui vient d'éclater, qui est le pouvoir des réseaux sociaux. On croyait que les réseaux sociaux étaient dominés justement par les lobbies sionistes, c'est-à-dire qu'on pouvait diffuser beaucoup de concepts qui sont faux afin de détourner l'attention des jeunes arabes et voire même des jeunes dans le monde occidental de la cause palestinienne, mais aussi d'assumer leurs responsabilités, etc., etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu il y a eu une réaction au niveau des réseaux sociaux, et c'était des initiatives personnel. Et donc, quand on regroupe toutes ces initiatives, cela a déclenché ce qu'on voit actuellement, les manifestations. Donc, les manifestations qui ont lieu en Occident ont réussi à montrer aux lobbies sionistes, à l'entité sioniste, aux gouvernements occidentaux que non, vous ne détenez pas le dernier mot, au sens que nous avons aussi un mot à exprimer. La question qui se pose, est-ce que cela risque de est-ce que cela menace les lobbies sionistes? Je ne sais pas. Est-ce que cela menace je ne sais pas si on peut parler ainsi, mais dans le nouvel ordre mondial ou dans l'ordre mondial ancien, il y a ce que j'appellerais un ordre mondial qui est profond, qui est caché, qui est détenu par des élites politiques, par des lobbies sionistes, par des sociétés, par des lobbies du pétrole, les lobbies des armes, etc. Est-ce que cela va les menacer? Non, je ne crois pas, puisqu'ils vont, certes, ils vont redessiner de nouvelles stratégies pour prendre en considération désormais pour toute prochaine guerre, justement ce que les réseaux sociaux peuvent faire au niveau de la traduction dans les rues.
Merci, Madame Obola.
Je vous en prie.
Alors, je vais faire intervenir la deuxième invitée, Madame Aïssar Midani. Après les propos tenus par le professeur Obola, nous avons vu également des journalistes s'opposer à leur propre chaîne, comme par exemple les journalistes, le groupement de journalistes qui ont écrit une lettre donc à BBC pour dénoncer la manière dont l'actualité a été présentée par cette chaîne anglaise. Et nous avons vu également une journaliste, un reporter de CNN dénoncer, lorsqu'il y a eu la libération des prisonniers palestiniens, dénoncer le fait que c'était des enfants, que c'était des enfants qui étaient en prison depuis plus de 10 ans, donc là, adolescents ou presque jeunes adultes, mais qu'en fait, ils étaient extrêmement jeunes quand ils étaient emprisonnés et que tous et ce sont les paroles tenues directement par le reporter de CNN, tous n'avaient eu aucun jugement. C'était une détention administrative. Alors c'est, on rappelle que CNN est donc une chaîne américaine qui a toujours présenté la version sioniste de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, même avant. Est-ce qu'on ne voit pas quand même là un tournant du fait que certaines personnes, même s'ils sont dans cet appareil de lobby sioniste, cherchent à s'y opposer ? Madame Hamidani.
Je crois effectivement qu'il y a un tournant qui est en train de se faire hein, du fait de l'ampleur, d'une part, des crimes sionistes concernant génocide, épuration ethnique, etc., d'une part. D'autre part aussi, leur manière de traiter les prisonniers, d'une part, leur manière, je dirais, de violer systématiquement toutes les lois internationales des droits de l'homme, etc. Effectivement, ce que me dit Mme Obala, et c'est très très juste, c'est-à-dire à partir du moment où tout ça s'était caché par les médias officiels, maintenant que c'est apparu au grand jour parce que mis sur la place publique par les réseaux sociaux, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Ça d'une part. Et puis d'autre part, de toute manière, il y a aussi cette défaite de cet État que tout le monde pensait très fort, très démocrate et l'armée invincible et le pays le plus démocratique du Moyen-Orient, etc. Toute cette publicité autour de l'État sioniste, elle est tombée vraiment en débris dans cette opération de déluge de l'Orsa. Et donc, à tel point que même ceux qui soutiennent cet État sont très gênés. Parce qu'il faut quand même rappeler que les pays occidentaux, comme les États-Unis, les pays européens, etc., se sont fait valoir une réputation de défenseurs des droits humains, défenseurs de la démocratie, à tel point qu'ils allaient porter la démocratie dans les pays, dans tous les pays du monde avec la force des bombes, et de l'invasion, et avec aussi, en faisant appliquer l'article 7 de la charte de l'ONU, etc. Donc tout ça est tombé en éclat, est tombé en débris, et ils commencent à être vraiment gênés vis-à-vis de leur peuple, ajouté effectivement à la grande prise de conscience des peuples aussi de ce qu'est cette réalité de l'occupant israélien, donc toutes les manifestations, toutes les oppositions que subissent ces gouvernements occidentaux qui soutiennent l'État fantoche d'Israël, c'est insoutenable devant leur population, et qu'aujourd'hui ils sont obligés de reculer un petit peu en arrière et puis voire même ils vont peut-être changer de tactique vis-à-vis de cet État d'Israël qui n'est qu'un État avec une fonction qui est de servir l'Occident, les intérêts de l'Occident dans notre région. Alors quand on voit que cet État ne peut pas se défendre et ne peut pas servir non plus même de false flag, je dirais, de la démocratie occidentale et servir de couverture à toutes ces avancées coloniales, là, on commence à se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à trouver d'autres solutions et à trouver d'autres appuis dans la région, des appuis coloniaux qui seraient plus efficaces que l'État d'Israël. Merci. Donc, il y a aussi une volonté de les lâcher. D'ailleurs, c'est ce qui fait, excusez-moi de juste une phrase, hein, c'est ce qui fait l'angoisse de cet État, du gouvernement israélien. Ils ont peur d'être lâchés, effectivement, ou de perdre leur raison d'être, qui est la fonction de tête avancée, je dirais, du colonialisme occidental et américain.
Donc forcément, de leur financement, on rappelle que chaque année, les pays versent une somme colossale à l'entité sioniste, notamment les États-Unis en premier. Madame Obola, alors vous avez parlé d'un cinquième pouvoir qui a été représenté par les réseaux sociaux. Alors, nous avons, il a été annoncé il y a quelques heures de cela, la possible venue du chef de la diplomatie chinoise à New York, à l'ONU, pour parler de la situation sécuritaire à Gaza. On avait entendu parler il y a une semaine ou deux semaines de la bouche des Qatar que les pays arabes ne bougeraient pas sans un mouvement de la Chine. Est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que la Chine va se positionner et cette fois se confronter à l'aide financière et l'aide matérielle qu'apportent les États-Unis à l'entité sioniste?
Alors attendez, récapitulons. Est-ce que vous me posez la question pour savoir si la Chine va soutenir l'entité sioniste au niveau matériel ?
Non, c'est le contraire. S'opposer à cette continuité d'aide, parce que finalement l'entité sioniste, sans ces aides apportées par les différents pays aux alentours...
Ok, c'est bon, j'ai compris.
Allez-y.
Écoutez. Alors, bon, concernant la Chine ou le rôle de la Chine au Moyen-Orient, cela a commencé bien avant, disons que ça s'est traduit sur le terrain, proprement dit. Ça s'est dévoilé quand justement il y a eu un accord entre l'Arabie Saoudite et la République islamique de l'Iran sous la médiation de la Chine. Il y a eu des négociations et la Chine avait commencé justement je dirais pas imposer, mais à s'infiltrer dans le Moyen-Orient à travers la porte économique. Donc, ils avaient signé des accords, plusieurs accords, soit avec l'Irak, avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, de milliards de dollars dans le cadre d'une coopération économique, culturelle, etc. Au niveau diplomatique, la première percée que la Chine a réalisée, c'était justement quand ils ont justement réussi à réunir sur une même table l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et ensuite, on a eu une forme d'accalmie, je ne sais pas si on peut parler ainsi, où on n'a plus entendu parler de la Chine dans la région. Là, récemment, hier et avant-hier, j'étais en train de suivre les informations, et apparemment, il y a une activité chinoise au niveau diplomatique. Bon, aujourd'hui, vous venez de me dire que ça a été révélé maintenant, mais il y a deux jours, ou il y a une semaine peut-être, il y a une activité chinoise diplomatique assez importante au niveau des divers médiateurs arabes, que ce soit Qatar, que ce soit au niveau de l'Arabie Saoudite, et cela juste avant, à ce qu'il paraît, une tournée prévue de la part du président de la République française, M. Macron, qui compte visiter le Qatar et qui compte visiter aussi, à ce qui paraît, l'Arabie Saoudite. Donc, cela n'a pas encore été confirmé, mais c'est ce qui est en train d'être divulgué dans les médias ici au Liban. Donc, certes, la Chine a un rôle important et certes, elle va exploiter ce qui se passe actuellement dans la région, dans le sens où elle pourra jouer un rôle encore plus important au niveau diplomatique afin d'être un contre-pouvoir face aux États-Unis au sein du Conseil de sécurité, puisqu'elle a déjà le droit de veto et elle a déjà fait, elle a déjà utilisé ce droit de veto au début. De la bataille du déluge à l'Aqsa. Donc, elle est présente, que ce soit elle ou que ce soit là aussi, de toute façon. Maintenant, est-ce que cela va se traduire au niveau diplomatique par un succès ou une percée diplomatique contre les États-Unis? Franchement, je n'ai aucune information là-dessus. Mais si je veux penser comme pensent les Chinois, bien sûr qu'ils vont essayer de faire cela, puisque bien entendu, pour eux, c'est une occasion de prouver encore une fois que la diplomatie américaine est une diplomatie qui est pro-sioniste, qui ne tient pas compte des intérêts des peuples, encore moins des intérêts des régimes, qui s'interfère dans la politique, qui adopte une politique d'ingérence dans les affaires internes des pays, qui suscite les zizanies entre les différentes forces politiques à l'intérieur de tous les pays, alors que la diplomatie chinoise est une diplomatie qui tente de trouver les points communs ou les facteurs communs qui puissent réunir justement les parties qui sont en qui sont en conflit, et en tenant compte justement des intérêts de leur peuple, mais aussi des intérêts de l'État. Et donc, si la diplomatie chinoise réussit encore une fois à faire une percée, ce sera encore une fois un coup pour la diplomatie américaine qui déjà a été complètement remise en question à travers la bataille du déluge à l'Aqsa, puisqu'elle a pris part. Et cela, je rappelle, cela s'est traduit de manière flagrante quand justement le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, est arrivé en Israël, entre guillemets Israël, pour dire « je ne viens pas en tant que diplomate, c'est-à-dire je ne viens pas représenter les affaires étrangères de mon pays, je viens en tant que juif ». Donc il a complètement, il a frappé contre le mur, si on peut s'exprimer ainsi, le sens même, son rôle en tant que diplomate. Où est-elle donc la diplomatie américaine dans ce cas-là?
Merci, professeur Obola. Alors, Mme Midani, on a parlé au tout début donc de ce débat, de cette émission, de l'isolement possible de l'entité sioniste. On va revenir sur ce point. Cet isolement dû au fait que des navires pro-sionistes ont été donc piratés par les Houthis, mais également par le Hezbollah. Si je ne me trompe pas, il y a un des bateaux qui avait été attaqué par le Hezbollah. Alors, c'est un isolement qui se peut également économique, parce qu'une fois qu'un navire est en danger, donc c'est sa marchandise qui est en danger, donc les assurances jouent un rôle dessus. À chaque fois, l'antisioniste a toujours indiqué, par exemple, quand on prend l'exemple de l'Iran, l'isolement total de l'Iran, qui s'est vu finalement être le contraire ces deux dernières années, puisque l'Iran, au niveau diplomatique, s'est retrouvé extrêmement active dans la région et l'a continué pour l'affaire de la Palestine, puisque Amir Abdullahian, le ministre des Affaires étrangères, n'a pas arrêté de bouger sur tout le territoire du Moyen-Orient pour se mettre d'accord avec tous les pays pour savoir ce qu'il fallait faire et la position et de partager la position iranienne. Est-ce qu'on peut s'attendre à cet isolement soit plus important pour l'entité sioniste, parce qu'il s'avère que c'est le contraire qui est en train d'arriver. L'Iran est moins isolé, mais l'entité sioniste, par cette bataille et cette tempête d'Al-Aqsa, se retrouve, lui, isolé et dans une possible isolement pour un long moment.
Effectivement, de toute façon, l'État fantoche d'Israël, avec sa pratique vis-à-vis de, pendant le déluge à l'Aqsa, ce bombardement sans limite, aveugle, cette tuerie absolument incroyable des enfants, des femmes, etc. C'est un pouvoir, ça s'est montré à l'échelle mondiale, que ce n'est pas un pouvoir qui se bat, ou en fait ce n'est pas un pays qui se bat, c'est un pays qui tue. Donc il tue les civils, il tue les femmes, les enfants, etc. Donc en fait l'éclaircissement de cette dimension de tueur professionnel, je dirais, de l'État d'Israël, fait qu'il y a aussi des solidarités qui s'expriment. Donc la solidarité du peuple yéménite vis-à-vis des Palestiniens et pour la défense de l'humanité et la défense aussi de l'ensemble des peuples de la région, ils ont affirmé haut et fort leur solidarité et que de toute façon la mer Rouge sera interdite aux navires qui vont apporter quoi que ce soit aux Israéliens. Donc là, c'est un premier isolement. Le deuxième, effectivement, tous les pays de la région, même ceux qui avaient déjà entamé des relations de normalisation, entre guillemets, avec l'État israélien,
ils sont complètement... On arrive à la fin du débat, si vous pouvez conclure. Merci.
Oui, je conclue. Alors, effectivement, il court à sa perte, Israël court à sa perte, il va être isolé mondialement. Il va être aussi, et les Américains, s'ils continuent à le soutenir, ils vont être très embêtés aussi au niveau de leur présence de la région, mais aussi de l'ensemble du monde.
Merci, Madame Yannine. Désolée pour la coupure de la fin de ce débat. Le temps du débat est fini. Professeur Obola, Madame Midani, je vous remercie pour cette participation à ce débat qui concernait donc l'isolement et les conséquences de la tempête d'Al-Aqsa sur l'entité sioniste. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat. Au revoir et à bientôt.
l'histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Chers amis auditeurs, bonjour. Dans le programme d'aujourd'hui, nous nous intéressons à présenter le père de la biologie en Iran, le professeur Mahmoud Behzad, à nous familiariser avec ses activités précieuses dans le sens du développement des sciences en Iran. Merci de nous suivre jusqu'à la fin de l'émission. Le professeur Mahmoud Behzad est né en 1913 et décédé en 2007. Il est né à Rasht, le chef-lieu de la province de Gilan. Fils d'un lapidaire, Behzad a effectué sa formation initiale à Rasht avant de poursuivre ses études de licence à l'école normale Donesh-Saroye Orly de Téhéran. En 1945, il obtient son diplôme dans le domaine des sciences naturelles et de l'éducation. Après avoir terminé son service militaire, il se rend à Kermanshah à l'ouest de l'Iran et y reste pendant 5 ans, puis retourne à Rasht. Grâce à la maîtrise complète de la langue française et aux études continues dans ce domaine, il rédige le livre « Que veut dire Darwin » en 1945. Il traduit une œuvre scientifique sur l'hérédité humaine en 1954. En raison de son grand intérêt pour la biochimie, il s'inscrit en 1945 à la faculté de pharmacie tout en enseignant au lycée célèbre Alborz dans la capitale Téhéran. Après avoir obtenu en 1949 un doctorat en pharmacie, il concentre ses activités sur la préparation de manuels et de supports pédagogiques. Il a été le fondateur de l'organisation iranienne d'édition de livres savants et parlait couramment l'anglais, le français et l'allemand. En 1950, il remporte le prix royal pour la traduction du livre « Création de l'univers » rédigé par Georges Gamow. En raison de la traduction du livre « Psychologie physiologique » publié en 1969, il a été invité à l'université de Téhéran pour enseigner la psychologie physiologique. Après cela, il a enseigné la biologie et la psychologie physiologique à l'université de Téhéran et à l'école supérieure pour filles. Il a par ailleurs enseigné les sciences naturelles en français pendant 15 ans à partir de 1960 au lycée Razi dans la capitale Téhéran. Mahmoud Behzad est considéré comme l'un des traducteurs scientifiques les plus actifs d'Iran, dont les traductions les plus importantes incluent les œuvres de Charles Darwin et Richard Dawkins et les œuvres non romanesques d'Isaac Asimov. En 1962, il a été chargé de créer l'organisation des manuels scolaires et a été à la tête de cette organisation pendant 12 ans. Grâce à ses efforts, tous les manuels scolaires iraniens, du primaire à la fin du secondaire, ont été compilés et publiés avec une seule écriture. En 1981, il retourne dans sa ville natale et commence sa coopération avec l'Association des pharmaciens de Gilan. en raison des 60 ans d'enseignement dans divers domaines de la biologie, de la physiologie et de la génétique, il est devenu connu comme le père de la biologie iranienne moderne. Behzad est l'auteur et le traducteur d'ouvrages scientifiques le plus prolifique d'Iran. Le nombre des publications et traductions de professeur Mahmoud Behzad atteint 98 livres, dont il a écrit et traduit 63 livres seul et 35 livres avec l'aide de ses collègues scientifiques. Ses œuvres sont généralement bien accueillies et remarquées par les chercheurs et les étudiants, et certaines de ses œuvres et traductions, telles que « Darwinisme et évolution », ont maintenant atteint la 10e édition. La plupart des ouvrages du professeur Behzad ont été publiés par les éditeurs réputés tels que la Société de traduction et d'édition, Pocket Books, Amir Kabir, Khorazmi, Nil, la Librairie Centrale et des publications universitaires. Outre les ouvrages mentionnés et les livres qu'il a publiés, en collaboration avec d'autres professeurs, il a publié des centaines d'articles dans divers domaines. Jusqu'au dernier jour de sa vie, en coopération avec l'Association des pharmaciens, il a publié à Rasht le magazine Hikmat, Sagesse en français, contenant les dernières informations sur le plan médical et pharmaceutique. Il est connu comme le père de la biologie moderne en Iran. Il a écrit plus de 100 livres en persan et a participé à la rédaction de plus de 200 livres en Iran. Mahmoud Behzad a écrit dans une partie d'un article intitulé « Enthousiasme pour la science » à propos de l'apprentissage des sciences et de la curiosité des élèves à apprendre des leçons, l'une des façons d'apprendre les sciences est de rendre curieux les élèves, de savoir quelque chose auquel ils n'ont pas prêté beaucoup d'attention. Lorsqu'un élève devient curieux, il apprend bien le sujet et celui-ci devient une partie de ses connaissances sans essayer de l'apprendre par cœur, comme le contenu des manuels. Il existe une autre solution. L'enseignant ne doit parler seul dans la classe. Au contraire, il doit encourager les élèves à réfléchir et à parler. Pour cela, l'enseignant doit poser des questions sur le sujet de la leçon et demander aux élèves d'y répondre et créer une situation où chacun participe à la séance de questions et de réponses. Il est préférable que la question soit écrite au tableau et que les réponses, même si elles sont incorrectes, soient écrites en regard et qu'il soit demandé aux élèves de trouver la réponse afin que la voie pour comprendre la bonne réponse soit ouverte par cette action. Mahmoud Behzad est l'auteur et le traducteur de 80 livres dans les domaines de la médecine, de la pharmacie et de la biologie. Il a également édité plus de 90 titres de livres et traduit ou rédigé plus de 200 articles. Parmi les travaux de ce prolifique chercheur, écrivain et traducteur, on peut citer les dimensions humaines du type humain, mon corps, la biotechnologie, la biologie pour tous, la théorie de l'évolution et la psychologie, etc. Behzad a également traduit de nombreux livres, dont « Les 8 grands péchés d'un homme civilisé »,« Les hommes sont-ils vraiment supérieurs aux femmes ?»,« Secret du corps »,« Secret du cerveau humain »,« Immunologie en un seul regard ». Ces œuvres sont généralement bien accueillies et remarquées par les chercheurs et les étudiants, et certaines de ces œuvres et traductions ont atteint la 10e édition.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud,